Chapitre 22. Sa grand-mère avait-elle déjà roulé aussi vite sur la route du Cap? Juliette en doutait. En tout cas, l'aiguille du tableau de bord de la vieille Datsun rouge tremblait tellement qu'elle semblait prête à exploser à travers la paroi de verre. Juliette avait compris que sa grand-mère était extrêmement anxieuse et aussi déterminée. Elle lui avait promis de l'accompagner jusqu'au dock, mais pas plus loin. Si on ne retrouve pas Jamie là-bas, il faudra appeler la police, avait-elle dit d'un ton ferme. Juliette avait protesté en vain. Les 2 heures qu'elles mirent pour atteindre la côte furent les plus longues de la vie de Juliette. Une suite d'obstacles semblait avoir été organisée pour les retarder. Un barrage de police, un embouteillage, un bus qui débarqua à une fournée de personnes de troisième âge. 3 vaches en vadrouille qui erraient tranquillement sur la route. Et pendant ce temps-là, la prophétie de Grace résonnait dans la tête de Juliette. « La girafe blanche est là, mais pas pour longtemps. Je vois de la souffrance, beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. » À présent, la voiture roulait sur une route de l'arrière-pays bordée de grandes propriétés viticoles, avec de vieilles bâtisses hollandaises typiques du Cap et des allées de lavande, qui peu à peu laissèrent place à des bidonvilles proches de Soweto que Tandai avait décrit à Juliette. Des kilomètres et des kilomètres de bicoques en tôle rouillée et contreplaquée qui laissaient passer l'eau, de chiens rongés par les vers et d'adolescents au regard affamé. Des enfants s'amusaient dans la fange avec des jouets en fil de fer. Au bout d'une heure interminable, elles quittèrent cette route pour prendre celle de la côte qui menait au front de mer. Les flancs escarpés de la montagne de la Table étaient couverts d'une épaisse couche nuageuse. Enfin, elles aperçurent au loin d'immenses cargos gris et des grues soulevant des conteneurs. Mais plus elles s'approchaient, plus la voiture devait ralentir. Juliette trépignait d'impatience. Arrivée près du port, il fallait encore trouver où se garer, ce qui était difficile. Heureusement, elles finirent par repérer un sentier abandonné, couvert de mauvaises herbes et de pierrailles, et se garèrent sous un pin parasol. Sa grand-mère ouvrit sa portière et s'apprêtait à sortir quand Juliette posa la main sur son bras. « Il faut que j'y aille seule. Je ne crois pas, non ? Tu as 11 ans à peine et tu es à peu près à 2 heures de la maison. C'est à cause de moi que Jimmy a été capturé, et si quelqu'un lui fait du mal, ce sera encore de ma faute. Il faut que ce soit moi qui la retrouve. » Sa grand-mère se rassit et referma la portière, l'air abattu. « Où tout cela va-t-il nous mener ? » demanda-t-elle. Et Juliette eut l'impression qu'elle ne faisait pas seulement allusion à la disparition de la girafe. « D'accord, vas-y, pars à la recherche de ta précieuse girafe. Mais si tu n'es pas rentrée d'ici 3 quarts d'heure, j'appelle la police. Je ne prendrai pas plus de risques. La douleur d'avoir perdu un enfant est déjà suffisante. Je ne pourrai pas supporter d'en perdre un second. » Juliette se pencha vers elle et lui déposa un délicat baiser sur la joue. Et elle eut la surprise de voir que ses yeux bleus étaient remplis de larmes. « Merci pour tout !» dit Juliette. Elle sauta de la voiture pour remonter le sentier jusqu'à la route principale. Un vent cinglant traversa son t-shirt et l'air salé lui picotait les narines. En bas de la colline, derrière une très haute clôture surmontée de fils de fer barbelés, s'étendaient les chantiers navals, et au-delà, l'océan vert qui bouillonnait sous une nappe d'écume blanche. Les chantiers bourdonnaient d'une activité impressionnante, et Juliette entendit des chiens aboyer, sans doute des chiens de garde. Grelottant, elle fit une pause derrière un arbre et laissa passer quelques voitures. Elle commençait à regretter de ne pas avoir emporté de veste. Elle posa la main sur la pochette que Grace lui avait remise dans la vallée secrète pour y puiser courage. Sa grand-mère avait posé quelques questions à ce sujet, mais Juliette lui avait répondu que c'était un cadeau offert par une amie pour lui souhaiter bonne chance. Prévoyante, elle avait également emporté le couteau suisse de M. Morrison. Si par bonheur elle retrouvait Jamie, il y avait des chances qu'elle en ait besoin. Dès que la route fut libre, elle piqua un sprint jusqu'à la clôture et se glissa derrière la cabane du gardien. Elle pensait avoir à palabrer avec le vigile pour entrer. Mais elle jeta un œil à travers la vitre couverte d'embrun et comprit que ce n'était pas la peine. Deux hommes chargés de la sécurité étaient là. Le premier était rivé à un match de rugby à la télévision, remuant vaguement une tasse de thé en se balançant sur une chaise, et le second avait l'oreille collée à son talkie-walkie près de la fenêtre en pleine conversation.
« Qui tu traites d'idiot comme ça ?» entendit Juliette.
Des grésillements furieux suivirent. Juliette n'attendit pas plus longtemps. Elle se glissa sous la clôture et se précipita vers la jungle de conteneurs de toutes les couleurs. À tout moment, elle pouvait être arrêtée. Heureusement, personne ne faisait attention à elle quand, soudain, un aboiement sinistre lui glaça le sang. Un énorme Rottweiler lui barrait le chemin, les babines retroussées, découvrant une mâchoire plus terrifiante que celle d'un crocodile. Une brise glaciale continuait de souffler, mais Juliette se mit à transpirer à grosses gouttes. Instinctivement, elle plongea son regard vert dans les grands yeux jaunes du Rottweiler et concentra toute son énergie pour le maîtriser et lui faire comprendre que, s'il avait le malheur de l'empêcher d'aller au secours de Jimmy, elle se chargerait personnellement de l'envoyer au requin. Puis elle lui ordonna de se coucher. À son immense surprise, le Rottweiler s'effondra à terre avec un piteux gémissement et se couvrit les yeux de ses pattes. Si Juliette n'avait pas été terrifiée, elle aurait éclaté de rire. Elle enjamba le chien et se faufila jusqu'aux premiers interstices entre deux conteneurs. Elle eut alors une vision plus précise des docks et repéra trois paquebots gris et un remorqueur bleu et blanc dans le port. Les chantiers navals fourmillaient d'ouvriers. Il devait y avoir au moins 25 caisses et plusieurs voitures de luxe en cours de chargement, calcula-t-elle. Mais aucune trace de la girafe. Le temps pressait et elle ne savait plus par quoi commencer. Comment espérer fouiller trois paquebots de la taille d'un gratte-ciel ? Pourquoi n'avait-elle pas alerté la police comme lui avait suggéré sa grand-mère ? Pourquoi fallait-il toujours qu'elle choisisse la solution la plus ardue ? Elle était têtue comme une mule. Soudain, elle fut tirée en arrière. « Lâchez-moi ! » hurla-t-elle en se débattant. Et elle s'écroula au sol avec un bruit sourd, entraînant avec elle son assaillant. Elle demeura allongée sur le ventre, incapable de faire un geste. « Je vous arrête pour avoir pénétré sur un terrain privé !» lança une voix jeune. « Vous avez le droit de garder le silence !» Juliette roula sur le dos. « Toi ! » s'exclama-t-elle. Deux yeux de lion étaient fixés sur elle. « Salut, Juliette !» dit Ben avec un large sourire.